Haut Urbain, le podcast qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativet et pour ce troisième épisode consacré au télétravail, j'ai interrogé des représentants du personnel. Acteurs clés de la prévention des risques physiques et psychosociaux, les représentants du personnel ont été surmobilisés depuis le début de cette crise. Veiller au respect des protocoles sanitaires, alerter la direction sur les conditions de mise en place du télétravail, être à l'écoute des salariés pour faire remonter les difficultés individuelles et organisationnelles, conseiller les salariés sur leurs droits, être à l'affût de toutes les décisions prises pouvant avoir des conséquences sur les conditions de travail et la santé des salariés, autant de missions qui incombent aux élus représentants des salariés. Ces missions de prévention sont d'autant plus difficiles à tenir depuis les ordonnances Macron de l'automne 2017, puisque celles-ci ont tout simplement décidé de supprimer l'instance consacrée aux conditions de travail et à la santé des salariés, les CHSCT, les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Cette décision a eu pour effet de créer le CSE, le Comité social et économique, qui regroupe les prérogatives des CHSCT et des CE pour les questions économiques. Moins d'instances, c'est moins d'élus. Les représentants du personnel sont alors moins nombreux pour jouer leur rôle d'alerte en termes de santé. Quelle que soit la couleur syndicale, cette crise a rendu difficile le rôle de proximité des représentants du personnel auprès des salariés en télétravail. Toutefois, les élus ont été en première ligne, le tout à distance, pour veiller aux conditions de travail. Pour bien saisir le rôle et l'utilité des représentants du personnel dans cette période de télétravail massif et imposé, j'ai rencontré Chantal, élue CGT à Pôle emploi. Avec elle, nous saisirons la difficulté du rôle d'élu dans un secteur de mission de service public. Accueillir les demandeurs d'emploi tout en étant vigilant à la santé des salariés et des usagers. Nous prendrons alors la mesure de l'investissement des élus et de la difficulté de se faire entendre auprès d'une direction. Enfin, j'ai interrogé Mathilde, élue CFE-CGC, dans une association d'environ 100 salariés. Avec ses collègues élus, ils étaient déjà mobilisés sur des problématiques de risques psychosociaux avant la crise. Elle reviendra sur cette année difficile et nous verrons avec elle comment le télétravail a pu être une échappatoire et qu'il est alors incontournable d'analyser les organisations de travail et de réfléchir aux espaces avant même de penser à un accord télétravail.
Je suis depuis 20 ans conseillère à l'emploi, d'abord à la NPE, puis à Pôle emploi quand les ex-ACEDIC et la NPE ont fusionné. Moi, je suis syndicaliste à la CGT depuis presque 35 ans maintenant. J'ai commencé comme simple syndiquée et au fur et à mesure, j'ai commencé à militer un peu plus, à prendre des responsabilités syndicales. Aujourd'hui, je suis déléguée syndicale, je suis secrétaire générale de la CGT Pôle emploi Bretagne. Et là, depuis 2019, je suis élue au comité social et économique de la CGT Pôle emploi Bretagne.
Comment s'est déroulée en fait cette année, même cette année et demie maintenant, avec un télétravail massif et imposé en fait au niveau gouvernemental? Et peut-être commencer par préciser s'il y avait et s'il y a un accord déjà télétravail au sein de Pôle emploi.
Il y avait un accord télétravail à Pôle emploi depuis plusieurs années maintenant, dans le cadre de l'accord QVT, qualité de vie au travail. Ce n'était pas un accord télétravail en tant que tel, il était intégré à l'accord QVT. Très peu d'agents bénéficiaient du télétravail et avaient choisi cette modalité de travail. Il y avait environ 30% au niveau national. Donc, quand le premier confinement en mars l'année dernière a été décrété, comme tout le monde, hein, c'est venu percuter de plein fouet l'organisation de travail, notre organisation syndicale. Tout le monde était confiné, chacun chez soi. De nombreux camarades syndiqués étaient soit en garde d'enfants, soit en arrêt. On était très peu nombreux à rester sur le front. Très peu nombreux également à être dotés d'un ordinateur. Seule une poignée de syndiqués avaient donc un ordinateur et une poignée d'agents également. Ce qui fait que ça a été très, très compliqué. De nombreux salariés se sont retrouvés chez eux sans possibilité de travailler. On a récupéré les ordinateurs des salariés qui n'avaient pas d'activité essentielle à l'activité de Pôle emploi pour les redistribuer donc à deux catégories de salariés, ceux en charge de l'indemnisation des privés d'emploi et ceux en charge de la paye des salariés de Pôle emploi. Il a fallu plusieurs mois à notre employeur pour doter les salariés, l'ensemble des salariés, d'un ordinateur portable. 100% des agents de Pôle emploi Bretagne ont été dotés d'un ordinateur seulement en octobre l'année dernière, plus de 6 mois après.
Et donc, du coup, comment les instances on continue à vivre? Est-ce qu'il y a eu de plus de CSE extraordinaires? Comment vous avez fait en sorte d'être toujours en lien avec, avec votre direction pour potentiellement faire remonter des choses et participer aux décisions, ou tout du moins être consulté sur les décisions qui étaient en train d'être prises au sein de Pôle emploi?
Nous intervenons en direct auprès des équipes locales de direction des sites et des services, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique direct de l'agent. On essaie de trouver une solution et si ça ne fonctionne pas, on monte plus haut, c'est-à-dire on va directement au président du CSE, c'est-à-dire à notre directeur régional et au DRH. On a réglé beaucoup de situations en local. Très peu ont été remontées au niveau régional. Quand c'était remonté en CSE, c'est parce qu'on avait plusieurs situations de même ordre. Et là, dans ces cas-là, on intervenait directement au niveau régional pour expliquer que certaines pratique managériale devait faire l'objet d'un rappel de la part de notre direction régionale. On a une intersyndicale forte. Malgré tout, notre direction a beaucoup de mal à écouter les préconisations des élus. Donc, chaque mois, il y a eu des CSE ordinaires et nous avons également eu des CSE extraordinaires à chaque fois que la situation sanitaire le nécessitait. Au niveau syndical, nous n'avions plus aucun moyen de nous réunir. Donc, là aussi, il a fallu se réinventer. Toutes les réunions CSE se sont déroulées en distanciel. Malheureusement, il est très difficile pour nous d'exercer nos prérogatives en matière de santé, de sécurité, de conditions de travail auprès de notre direction, puisque nous avons un directeur régional qui considère l'instance CSE comme une chambre d'enregistrement. Donc, notre direction nous donne une information descendante sur les grands projets, les orientations stratégiques de Pôle emploi. Mmh. Elle répond de temps en temps aux questions des élus quand ça l'intéresse et quand ça l'arrange. Elle élude les questions trop embarrassantes ou trop compliquées. Quand on fait des préconisations, la plupart du temps, la direction ignore celle-ci ou en prend une minorité pour montrer effectivement qu'elle fait un effort pour écouter les instances. Il a donc été très, très difficile ces derniers mois de tenir notre rôle. La direction refusant également de nous donner au départ des dérogations pour pouvoir nous déplacer sur l'ensemble de la région en tant qu'élus pour nous permettre de vérifier la mise en œuvre des mesures sanitaires sur les sites et les services. Il a fallu une intervention auprès de la directe, de l'inspection du travail, pour que la direction finisse enfin par nous attribuer ces justificatifs de déplacement. Donc, c'est vraiment très compliqué d'avoir ce lien entre le terrain et la direction. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, on exerce nos prérogatives, on fait des préconisations, on fait des alertes systématiques, code du travail, danger grave et imminent. On en a fait deux pendant cette période de confinement et plusieurs alertes pour atteinte aux droits des personnes.
Peut-être nous donner des exemples sur ces alertes.
Des méthodes managériales extrêmement difficiles et violentes. On a effectivement des organisations de travail qui ont été mises en place pendant ce confinement, qui ont mis la santé des agents en danger. Et donc, on a été obligé de prendre ces mesures pour obliger la direction, effectivement, à réagir. On n'a pas d'autre choix pour nous permettre d'exercer nos prérogatives.
Et là, vous en êtes où? Là, les personnes sont revenues sur le lieu de travail. Comment se passe aussi ce retour sur les sites?
Pour l'instant, la préconisation de notre direction jusqu'au 9 juin, 4 jours de télétravail exceptionnel et une journée sur site. Sauf en cas de mal-être évident d'un agent qui, effectivement, pour sa santé mentale, le retour sur site est impératif. Dans ce cas-là, il y a une souplesse qui a été accordée aux agents pour leur permettre de revenir un petit peu plus souvent, 2 à 3 jours sur site. Il a fallu la ténacité des élus pour que notre direction accepte cette souplesse. Pour l'instant, donc, nous allons avoir des mesures qui vont être mises en place à partir du 9 juin très prochainement. Il va y avoir à nouveau des réunions collectives, des ateliers collectifs. Les demandeurs d'emploi vont à nouveau pouvoir venir en collectif, en réunion, dans des espaces quelquefois sans aération. Pour nous, les élus, nous n'arrêtons pas d'alerter la direction pour lui dire qu'il est trop tôt. Les gestes barrières, malheureusement, ont été un peu délaissés ces dernières semaines. La désinfection de nos postes de travail qui ne sont plus réalisés quand on arrive sur notre poste de travail et quand on repart de notre poste de travail. On va dire que la direction n'insiste pas, ne rappelle pas l'obligation comme elle l'a fait au tout début. On sent une certaine fatigue et une certaine lassitude. On a une crise sanitaire qui dure, mais on a aussi des injonctions gouvernementales sur des objectifs en termes de reprise d'emploi, en termes de plan de relance et de baisse du taux de chômage. Et on voit bien que pour la direction, c'est la priorité.
Parce qu'effectivement, votre secteur d'activité fait que vous êtes évidemment extrêmement sollicité et vous risquez de l'être davantage dans le cadre de cette crise sanitaire avec potentiellement des personnes qui vont vivre des plans sociaux, des pertes d'emploi. Et on voit bien aussi, vous, en tant que représentant du personnel, cette crise sanitaire, elle vous met aussi dans des positions assez difficiles et qui peuvent être d'ailleurs paradoxales. C'est-à-dire que vos prérogatives consistent à veiller aux conditions de travail et aux questions de santé. Effectivement, cette crise sanitaire et cette propagation du virus expose clairement la santé des salariés. Et en même temps, il y a cette idée de veiller aux conditions de travail et notamment aux conditions de télétravail. J'imagine que cette position est pas facile, en fait.
Tout à fait. Alors, au début du premier confinement, on avait beaucoup d'agents qui disaient « Oh, c'est merveilleux, le télétravail, j'ai plus la pression du public, j'ai plus la pression et les injonctions de ma hiérarchie, je me sens un peu plus libre. » Et puis, au bout d'un an de télétravail, on a beaucoup d'agents qui nous disent « Ah, alors, le télétravail, est-ce que je vais le demander ?» Oui, certainement, mais peut-être qu'un jour par semaine et pas plus. Parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient beaucoup plus longtemps. Ils avaient beaucoup de mal à se déconnecter. Ils étaient très isolés. Ils ont de plus en plus d'obligations de reporting des activités réalisées. Ils ont de plus en plus d'obligations en termes d'objectifs. Et en fin de compte, là où ils sentaient un certain air de liberté, aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est une véritable contrainte. Et c'est aussi un danger dans l'isolement, puisque la base de notre métier, nous, c'est effectivement de discuter entre collègues et d'avoir des échanges de pratiques. Donc, l'enjeu de la CGT Pôle emploi Bretagne demain, c'est continuer à alerter les agents en matière de santé, de sécurité, de conditions de travail, mais aussi en matière de réception du public. C'est d'alerter notre public également sur les conditions dans lesquelles ils sont reçus, pour préserver leur santé. C'est vrai que nous avons deux enjeux en termes de santé. Nous avons la santé des salariés, mais nous avons aussi la santé des usagers. Et nous avons aussi, dans les conditions de réception, puisque notre mission première, c'est bien de recevoir le public, c'est notre mission première en tant que service public. Il y a des demandeurs d'emploi qui sont extrêmement perdus avec la dématérialisation et le tout numérique, et qui ne sont pas outillés. Donc, il faut continuer à proposer un service en présentiel auprès de ce public-là, voire même à ceux qui sont équipés et qui ont besoin de nous rencontrer, parce que faire du virtuel en permanence, c'est très compliqué de rendre un service totalement dématérialisé.
Le fait d'avoir des difficultés à se faire entendre, est-ce que ça a été exacerbé justement au moment de cette période-là, c'est-à-dire que le fait que tout le monde soit à distance, est-ce que ça fragilise pas d'autant plus la possibilité de faire remonter des choses à votre direction ?
En tant que syndicaliste, on a dû se réinventer. Et aujourd'hui, on communique avec les agents d'une autre façon, d'une autre manière. Et les agents, je trouve, à Pôle emploi en tout cas, ont un autre regard aussi sur les syndicats, sur notre organisation très certainement, mais sur le syndicalisme en général, et attend peut-être un petit peu plus de choses qu'ils n'attendaient de nous autrefois, nous voyaient comme peut-être une nébuleuse, ils comprenaient peut-être pas trop notre fonctionnement et notre utilité. Et les derniers mois ont prouvé qu'on avait réellement une utilité, notamment par le nombre d'interventions individuelles qu'on a faites et par le nombre de personnes qui nous ont sollicitées. Et on a montré qu'on avait une réelle utilité. Ça a été, en tout cas, si je devais tirer une leçon de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est celle-ci. Ouais.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Je suis dans une association qui compte à peu près 120 salariés. Je suis depuis 2015 et je suis élue représentante du personnel depuis 2018. On est 12 élus, 6 titulaires, 6 suppléants. En termes d'effectifs, du coup, dans l'association, on est majoritairement des cadres. Tous les cadres qui sont recrutés n'ont pas le même niveau d'autonomie. Il y en a certains qui sont sûrement effectivement très autonomes et d'autres un peu moins. Et ça a posé quelques difficultés, notamment aux managers, mais aux collaborateurs aussi eux-mêmes. Quand on est passé en télétravail contraint par la période de confinement, tous n'avaient pas cette capacité à travailler seul, loin de leur manager. Donc ça a pu poser quelques difficultés. Nous, on est dans un contexte où, en fait, il y a beaucoup de cas de souffrance au travail, beaucoup de risques psychosociaux avérés. Avant la pandémie, on avait un accord télétravail qui était très contraint. Tout le monde n'y avait pas droit. Les personnes qui demandaient du télétravail, c'était aussi des personnes qui étaient en souffrance et qui ne se sentaient pas bien venir et de rencontrer leurs collègues tous les jours.
C'était une manière de fuir.
C'était un échappatoire, complètement. Et donc aujourd'hui, c'est un peu différent parce que le télétravail était contraint. Il a duré très très longtemps. Ça a renforcé finalement les difficultés qui étaient déjà existantes et puis ça a créé de nouvelles difficultés à la fois pour les managers qui savent pas forcément comment manager une équipe à distance ou des managers dont le management nécessite de voir les équipes qui sont plus rassurées quand ils voient ou de leur parler en direct et pas leur faire un mail toutes les trois minutes. Mais aussi pour les collaborateurs qui ont besoin peut-être d'être un peu plus suivis, plus entourés, plus encadrés, qui ont besoin de voir d'autres collègues aussi. Les problèmes qu'il y a dans mon association, ils sont vraiment d'ordre organisationnel. L'organisation fait que ça produit beaucoup de RPS et du coup des managers sont en difficulté, des collaborateurs aussi. Pour ceux qui étaient en difficulté et qui vraiment avaient, c'était presque d'ordre physique, hein, qui vraiment ne pouvaient plus remettre les pieds au bureau, le fait d'être entré et travailler à 100%, ça les a aidés. Ça a permis de mettre un peu à distance les relations difficiles qu'ils avaient aussi avec leur manager ou avec d'autres collaborateurs. Donc ça a pu un petit peu aider, même si c'est qu'un palliatif, parce qu'effectivement, le cœur du problème n'était pas résolu. Pour ceux, en revanche, qui ont été mis en difficulté parce que en télétravail, là, ça a été compliqué pour nous de les identifier, parce que c'était aussi peut-être des gens qui n'avaient pas l'habitude de solliciter le CSE.
En tant qu'élu, comment vous avez géré ça avec la direction? Est-ce que vous avez fait plus de CSE que prévu? En plus, il y a une situation particulière, c'est que vous changez de direction pendant la pandémie. Comment ça s'est passé, quoi?
On a exigé de la direction d'organiser une séance de CSE par semaine parce que les conditions de travail allaient forcément être impactées. Ça nous paraissait important d'avoir un dialogue social beaucoup plus resserré. Ça a été précieux, honnêtement, d'avoir ce temps toutes les semaines. On a commencé effectivement à travailler avec une direction qui connaissait le mode de fonctionnement avant la pandémie et qui était très arc-boutée sur les anciens modes de fonctionnement, à la fois dans le cadre du dialogue social, mais aussi fonctionnement de la structure. Donc au début, ça a été assez difficile d'obtenir des choses, notamment quand on a commencé à réouvrir l'association. Une des choses que nous on a demandé, c'est quelles sont les modalités de réouverture, qu'est-ce que vous avez prévu. On n'a pas eu de réponse très très claire, donc là on s'est un peu interrogé et on a dû pousser pour qu'il y ait des choses un petit peu basiques, quoi. S'assurer qu'il y ait des masques à dispo, s'assurer qu'il y ait du gel hydroalcoolique sur des points clés, qu'il y ait un parcours de circulation à l'intérieur de la structure, qu'il y ait une désinfection des locaux qui soit prévue. Quand on demandait tout ça, vraiment, la direction était vraiment très, très fermée. À force d'insister, à force de leur répéter que ce serait leur responsabilité s'il y avait quelque chose de grave qui devait advenir, ils ont cédé. En cours de pandémie, on a eu une nouvelle direction. On travaille aujourd'hui avec une direction qui est plus à l'écoute. On n'est pas forcément tout le temps d'accord, loin de là. Mais on est vraiment dans la recherche d'une solution. Et la direction comprend vraiment ce qu'on attend. À titre d'exemple, on a observé que les gestes barrières n'étaient pas vraiment bien respectés, parce qu'on est une toute petite structure, que tout le monde se connaît, que tout le monde, grosso modo, s'aime bien. Donc garder le masque, c'est toujours un peu compliqué. Être à distance et pas être sur les mêmes bureaux, c'est triste. Et donc on a demandé à la direction de pouvoir contrôler, et de faire un monitoring, et de rappeler, et de faire beaucoup de pédagogie. La direction a accepté de le faire et a accepté de jouer le jeu.
Donc ça vient de vous, quoi. Enfin, c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire que la contrainte, le contrôle émane de vous en tant que représentant du personnel, alors qu'on a quand même plutôt l'habitude que ça soit la direction qui rappelle les règles. Du coup, c'est vous qui passiez pour les méchants, quoi.
Alors, un petit peu. C'est vrai que c'est difficile, mais nous, on s'est dit qu'on a quand même une responsabilité un petit peu en termes de santé, sécurité au travail, malgré la difficulté que ça peut représenter. Je vous donnais l'exemple de l'ouverture des locaux. On a eu des collègues qui étaient, enfin, qui comprenaient pas qu'on puisse rester sur cette posture de dire bah, il faut fermer les locaux. Et on leur expliquait que même si la venue dans les locaux reste sur la base du volontariat, dans le monde du travail, le volontariat, on sait ce que c'est. Souvent, il y a des collègues qui n'ont pas le courage de dire qu'ils veulent pas venir. Ils sont dans une équipe où tout le monde veut venir, où tout le monde se sent super bien, où personne n'a envie de porter le masque. Et ben, ils n'ont pas le courage de dire ben, moi, j'ai pas envie de venir, j'ai peur. Ne serait-ce que pour ces collègues-là. Oui, il faut qu'on reste sur quelque chose, une position assez dure et assez ferme pour qu'ils aient vraiment le choix. Et il y en avait chez nous des collègues comme ça et qui n'osaient pas parler, même en réunion du personnel, et qui n'osaient pas dire en fait, moi je suis plutôt contente que ça soit comme ça parce que j'ai peur, j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie de prendre les transports, j'ai pas envie de m'exposer, j'ai une famille où je suis à risque ou je suis tout seul mais j'ai pas envie de tomber malade. Notre position en tant que CSE, elle a été un peu compliquée pendant cette pandémie parce qu'on avait à cœur vraiment de protéger nos collègues et en même temps, et ce que je comprends aussi, hein, on avait des collègues qui disaient mais moi je veux me protéger tout seul et j'ai envie de venir. Donc il y avait toujours cette tension de rappeler les règles.
Et la direction a compris, du coup, ou elle n'était pas non plus favorable à ce genre de positionnement?
Alors, la première direction, honnêtement, elle n'a pas très bien compris. Ne serait-ce que déjà faire une désinfection des locaux et mettre du gel hydroalcoolique partout. On a vraiment dû se battre pour obtenir juste ça. Voilà, ils ne voulaient pas le faire parce que c'est du travail en plus. Ce que je comprends, hein, ça prend du temps et du coup, il faut prioriser les choses autrement. Mais pour nous, en fait, la santé des collaborateurs, c'était la priorité qu'il fallait avoir à ce moment-là. Il n'en fallait pas d'autre. Nous, ce qu'on a demandé pendant la première période de confinement, c'est justement qu'il y ait un moratoire sur les projets, qu'on arrête d'en développer parce que à distance, en télétravail forcé, les problèmes, les RPS, se démultiplient et on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on ne voit pas les gens pleurer, on ne voit pas les gens en souffrance, on ne voit pas les symptômes, les signaux de stress. Et donc, on a demandé, une des premières choses qu'on a demandé, c'est celle-là, c'est de se dire, arrêtons de démultiplier les projets. Tout le monde est déjà sous l'eau, les managers, les collaborateurs. Si on en rajoute en plus, en termes opérationnels, ça ne va pas tenir. On n'a pas été écoutés et ça n'a pas loupé, en fait. Moi, je recevais des messages privés me disant, mais en fait, moi, je vais mal. Pourquoi ils disent que tout le monde va bien? Moi, je ne vais pas bien. Ça se passe pas bien, j'arrive pas à parler à ma manager, elle est tout le temps en réunion, j'arrive plus avec la charge de travail, on a augmenté les trucs, on m'explique que maintenant il faut une newsletter par semaine, avant c'était une par mois, comment je fais? Il y avait vraiment des situations de détresse. Et le plus difficile, c'est que finalement, il y a des collègues pour lesquels tout se passe très bien, des collègues qui ne voient pas qu'autour d'eux ça va mal. Et c'est compliqué d'expliquer aussi à ces collègues-là, qui souvent sont des collègues qui ont la force de se défendre, qui parlent. C'est compliqué de leur expliquer qu'il y a des gens qui se taisent. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Donc voilà, on a été prise à partie vraiment plusieurs fois hein, sur ces questions-là. On a tenu bon parce qu'on est convaincus que c'est ce qu'il fallait faire.
Et vous êtes aussi une équipe d'élus soudés. Entre vous, vous échangez bien.
Oui, et ça aide beaucoup en fait. Ça aide beaucoup. On est une petite équipe finalement. On n'est que 12. On est 6 titulaires, 6 suppléants. On était tous sur la même liste. On fonctionne bien ensemble, on s'appelle. Alors du coup, cette période pandémique, ça a démultiplié aussi nos temps. On a des heures de délégation, mais alors là, ça a vraiment explosé parce que même entre nous, finalement, pour se retrouver et discuter d'un cas rapidement, bah, en fait, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on fait une conférence là maintenant sur Zoom. Tout prend minimum une heure. Il y a plus ce truc un peu rapide de se voir, de discuter 5 minutes, de dire bon, ok, ça c'est bon, on fera comme ça, et puis chacun repart de son côté. Donc ça prend aussi, ça nous a pris aussi beaucoup plus de temps, indépendamment du fait qu'il y ait plus de cas problématiques dans notre organisation, la manière de fonctionner a été plus chronophage. Le fait d'être très soudé, le fait d'être tous sur la même ligne, ça permet à chacun aussi de porter le même message et personne se sentait seul face aux collègues en fait. On savait qu'on avait une équipe et qu'on était soutenus et que voilà.
Votre expérience de représentante du personnel est finalement assez récente et cette année-là vous avez pu éprouver totalement du coup la fonction et sur l'expérience en tant qu'élu, ça a été riche pour vous
Ça a été difficile, je préfère le dire clairement. Ça a été difficile parce qu'on avait le sentiment qu'il fallait qu'on se batte contre la direction, particulièrement la première. Ça a montré à quel point notre rôle était essentiel et à quel point on pouvait avoir des marges de manœuvre et à quel point on pouvait avoir un impact réel sur la santé, sécurité, le bien-être des collègues. On est une association, en termes de risque professionnel, il n'y a pas une grue qui va vous tomber dessus, quoi. Enfin, voilà. Donc les choses paraissent un petit peu opaques. On ne sait pas très bien finalement de quoi on parle. Quand on parlait de risques psychosociaux, c'était un peu flou, même pour les collègues. Voilà. Et là, on était vraiment dans le dur. Donc les gens ont pu se rendre compte de ce dont on parlait. parce qu'ils l'ont tous vécu, quoi qu'il arrive. Même ceux qui l'ont vécu un peu mieux que les autres, mais ils ont tous vécu cette situation glissante. Et ils ont pu voir aussi qu'on agissait pour eux.
Parce que là, vous allez continuer. Vous allez, j'imagine, négocier un nouvel accord à télétravail. Vous avez parlé des locaux. Et pareil, c'est clairement dans les prérogatives du CSE. Donc, vous allez être encore très mobilisé.
Effectivement, on est en train de réfléchir à un nouvel accord télétravail qui soit plus flexible que le précédent, qui tienne compte des conditions dans lesquelles on a travaillé pendant un an maintenant. Chacun a des besoins un petit peu différents et la structure peut y répondre. Nous, ce dont on s'est vraiment rendu compte, c'est que le télétravail n'est pas une réponse à des problèmes organisationnels. On avait avant ce tort de penser que plus on sera en télétravail, plus on sera loin du travail, en tout cas de l'espace de travail, et plus les choses vont se régler. L'expérimentation a montré que non, c'est pas du tout le cas. Par contre, ça peut être un outil, si tant est qu'on réfléchisse à l'organisation et qu'on trouve des solutions pour une meilleure organisation du travail, pour un meilleur travail, pour une meilleure organisation, une meilleure fluidité dans le travail, alors le télétravail peut devenir un outil qui permet, d'apporter un élément de réponse.
Hauturbain, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve dans un mois pour le dernier épisode. Pour clôturer cette série sur le télétravail, j'échangerai avec deux sociologues qui nous feront part de leurs analyses. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que...
Septembre.